Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Il y a deux choses au niveau de l'impact de l'alimentation sur la santé. Il y a d'un côté l'aspect nutritionnel, donc les trop de sucre, trop de gras, trop de sel. Il y a un enfant sur 6 en France qui est en surpoids ou obèse. Au niveau de la population adulte, c'est près la moitié de la population adulte en Europe. Donc tout ça est fou. C'est même ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle une épidémie de maladies chroniques, une épidémie d'obésité. Et on parle là de la pandémie de Covid, qui est tout à fait réelle, mais on parle beaucoup moins de ces épidémies silencieuses.
L'alimentation et la planète sont deux sujets intrinsèquement liés, qui ont toujours été très importants pour moi. Dans mes différentes recherches à ce titre, j'ai découvert une organisation à but non lucratif il y a quelques temps qui s'appelle Foodwatch, via sa newsletter, super intéressante. Foodwatch, c'est une association qui se bat pour une alimentation sans risque, saine et abordable, pour toutes et tous. Porte-voix des consommateurs et consommatrices, Foodwatch milite pour plus de transparence dans le secteur alimentaire et défend donc notre droit à une alimentation qui ne porte atteinte ni aux personnes ni à l'environnement. Ça faisait très longtemps que je voulais aborder toutes ces questions fondamentales dans mon podcast et j'ai donc contacté la directrice générale de Foodwatch France, Karine Jacquemar, que j'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode. Je vous conseille de prendre un papier et un stylo parce que le contenu est très pédagogique, grandement documenté et j'ose le dire, assez important. Il y a du contre-pouvoir dans l'action de Foodwatch et avec Karine, nous avons parlé de son parcours précédent au sein de Greenpeace, des enjeux stratégiques qui se tissent derrière la malbouffe, de l'obésité, du pétrole dans nos aliments, des perturbateurs endocriniens, du règne de la désinformation, des 388 additifs potentiellement dangereux pour la santé, de l'Europe, des pesticides, du principe de précaution, du bio, des étiquettes peu fiables en période de Covid-19, de la stratégie du choc de Naomi Klein et des avancées sur toutes ces questions. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Karine Jacquemar, directrice générale de Foodwatch France. Karine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis très honorée parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Et je vais commencer par vous demander si ça ne vous dérange pas de vous présenter, voilà, simplement, professionnellement, et ce que vous voulez nous dire de personnel, mais il n'y a aucune obligation là-dessus.
Bonjour et merci Estelle de cette invitation, je suis ravie aussi. Donc je m'appelle Karine Jacquemar, je suis aujourd'hui directrice générale de Foodwatch en France. Oui. Et en fait, ça fait une vingtaine d'années que j'ai pris la décision dans mes engagements de défendre la justice sociale et environnementale, tout étant lié et il y a beaucoup à faire. Voilà, donc c'est ce qui m'occupe le plus.
Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de votre parcours et ce qui vous a amené à Foodwatch?
Bien sûr.
Ce que vous avez fait un peu avant?
Bien sûr. Écoutez, j'ai fait une école de commerce pour commencer parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'avais compris que ça ouvrait des portes. J'ai travaillé dans le secteur privé, différents secteurs, mais ça manquait beaucoup de sens pour moi. Donc à 29 ans, je suis partie dans l'humanitaire. Je suis partie en mission humanitaire sur le terrain, comme on dit, avec Action contre la faim au Sri Lanka, mais surtout plusieurs années en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, Somalie, Kenya. Donc ça a été des années, presque 7 ans avec Action contre la faim, extrêmement passionnantes, où on apprend énormément de choses sur la réalité aussi de la géopolitique et des grandes leçons d'humilité également. Et surtout, ça m'a confirmé que face à des choses qui me paraissent ne pas tourner rond sur cette planète, être dans l'action me faisait du bien, me correspondait bien. Néanmoins, j'ai eu envie, après ces années d'action humanitaire, qui sont indispensables, hein, ces actions humanitaires, mais j'ai eu envie de prendre les choses sous un autre angle, un peu plus politique, un peu plus en amont, et de me poser la question, humblement mais déterminée, de savoir comment on pouvait éventuellement faire des choses un petit peu par anticipation en amont, c'est-à-dire comment éviter finalement qu'on arrive à ces crises humanitaires dont on se rend compte assez vite qu'elles ne sont pas malheureusement souvent une fatalité. Oui. Donc la question, c'était une question plus politique en fait, de dire mais finalement comment on peut influencer éventuellement les politiques en amont pour éviter d'en arriver là. Ouais. Il se trouve que mon chemin a croisé celui de Greenpeace et de Greenpeace International, puisque en 2009, alors c'était un peu tard pour une organisation internationale, mais il n'est jamais trop tard, Greenpeace a ouvert pour la première fois des bureaux avec une présence permanente en Afrique à partir de 2009. Et donc, j'ai eu la chance de rejoindre Greenpeace à ce moment-là pour accompagner le développement de bureaux en Afrique centrale, au Congo et puis au Cameroun, où on a beaucoup travaillé avec les communautés locales, la société civile locale, et pour coordonner en fait la campagne internationale de protection des forêts, mais aussi de protection des droits des populations et contre l'accaparement des terres, puisque j'ai toujours à cœur de lier les combats qui doivent tout le temps être mis en perspective entre protection de l'environnement et des populations et des droits. On y reviendra sûrement.
Oui.
Et puis... voilà, et pareil, j'ai mené ce projet pendant plusieurs années, et ma route a croisé il y a presque 5 ans le chemin de Foodwatch, au moment où Foodwatch était en train de se développer en Europe, mais surtout venait juste d'être créé en France. Ouais. Et Foodwatch, on va en reparler, mais là encore, c'est une aventure passionnante, puisque le développement d'un contre-pouvoir citoyen, mais surtout sur un sujet qui continue de me tenir à cœur, parce qu'il est vraiment à la croisée des chemins, qui est le sujet de l'alimentation, et qui touche beaucoup aux droits essentiels des gens, et où il y a malheureusement aussi beaucoup de trop de contrôle des entreprises, des lobbies, et donc besoin de démêler un petit peu tout ça, pour là encore, pour la justice sociale et la justice environnementale. Donc, cette nouvelle aventure avec Foodwatch depuis presque 5 ans. Et nous en sommes là.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une sorte d'éveil où vous vous êtes dit, de toute façon, je ne pensais pas que l'Europe ou l'Occident allait avoir besoin de ce genre de contre-pouvoir. Et finalement, vous avez plongé dedans et vous vous rendez compte que c'est toujours d'actualité et encore plus d'actualité maintenant, certainement.
Oui, je trouve ça assez triste d'ailleurs, parce qu'en effet, quand j'ai pris le parti de partir en mission humanitaire plutôt à l'étranger, c'était pensant qu'en Europe, on avait quand même beaucoup de chance, beaucoup d'éléments, et à la fois politiques, économiques, beaucoup d'ingrédients pour, si on le voulait bien, faire en sorte que les choses se passent assez bien. Et puis, c'est pas du tout le cas, quoi. Ni d'un point de vue de la démocratie, ni d'un point de vue de la justice sociale, ni environnementale. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses à faire ici aussi. Donc, c'est un constat plutôt triste. Ouais. Mais face à cette réalité, oui, il est important qu'on agisse en Europe aussi, bien sûr.
En fait, je voulais vous demander comment vivez-vous cette période, quel regard vous portez sur ce qu'on est en train de traverser, et éventuellement, quel aspect positif, si vous en voyez un, vous pouvez déceler.
Cette période, elle est troublante, elle a un côté dramatique aussi pour évidemment beaucoup de gens. Après, moi j'ai la chance d'abord d'être en bonne santé. On a la chance aussi de pouvoir continuer notre travail et notre travail de lanceur d'alerte, d'enquête, de contre-pouvoir citoyen. Et c'est d'autant plus essentiel que dans ces moments de crise, il peut y avoir des abus. Après, il y a une impréparation pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup travaillé dans des zones de crise et de gestion de crise, qui saute aux yeux. Mais malheureusement, je pense qu'elle est l'écho de priorités aujourd'hui dans notre société, dans les décisions politiques qui ne sont pas à la bonne place. Il y a tellement eu ces dernières décennies une mise en avant prioritaire, systématique, de l'économie, de la financiarisation de tout ce qui touche à notre société, que voilà, ce qui touche à la santé publique, ce qui touche à la solidarité, à réduire les inégalités, n'a absolument pas été la priorité. Et là, dans un moment de crise, c'est encore plus flagrant. Maintenant, comme tout moment de crise, il peut en ressortir le pire comme le meilleur. Hein, c'est-à-dire que chacun va vouloir chercher parti de la crise pour faire avancer les choses à sa façon. Donc, je suis rassurée, je vois d'un œil très positif et très intéressé tous les mouvements qu'il y a, les mobilisations, les réflexions de fond. Et on sent bien qu'il y a un changement, une prise de conscience et beaucoup de choses qui vont vers ce que certains appellent le monde d'après. En tout cas, j'espère une revitalisation de l'importance de la solidarité et là encore de la justice sociale, environnementale, de repenser notre démocratie, de revoir comment on vit mieux ensemble et avec la planète. Il ne faut pas être naïf pour autant. En face et au même moment, les défenseurs d'intérêts privés, les lobbies notamment qui défendent des intérêts privés de grandes multinationales, ont eux une très grande expérience de se servir des crises pour faire passer des mesures ou bloquer des mesures et défendre leur business as usual ou même pire. Et ça s'appelle la stratégie du choc. Et Naomi Klein, journaliste d'investissement canadienne, a très largement documenté ça dans un livre du même nom. Donc, je crois qu'il faut pas être naïf et au contraire, il faut qu'on soit d'autant plus vigilant pour lancer l'alerte, bloquer des tentatives de certains qui iraient vers, on va dire, encore plus d'inégalités. Encore plus de destruction de la planète et des droits sociaux. Pour autant, il faut être optimiste et surtout, je crois qu'il faut être mobilisé. On ne peut pas rester dans l'inaction. Il faut là que, du coup, on se saisisse tous, à mon sens, de cette période pour aussi savoir y voir une opportunité d'exiger que les choses changent et d'être force de proposition.
Je suis entièrement d'accord avec vous. On reparlera un peu des lobbies tout à l'heure, mais pourquoi moi je vous lis avec attention, pourquoi j'ai entendu parler de vous, parce que je suis très concernée par la consommation, mais plus particulièrement, effectivement, pareil, on en reparlera ensuite, mais l'alimentation et la santé, mais je pense que ça concerne tout le monde. Quel est, selon vous, en fait, votre diagnostic? Qu'est-ce qu'on peut, pourquoi on en est là? Pourquoi il se passe ce qui se passe encore au niveau de, pareil, on va détailler ensuite, mais tous les scandales dont on a pu entendre parler, la méfiance et la défiance qu'on peut avoir concernant les produits qu'on achète. Pourquoi en est-on là? Quel est votre diagnostic, tout simplement?
Déjà, le premier diagnostic qui a été posé en 2002 et qui a été le déclic pour la création de Foodwatch par son créateur, qui est l'ancien directeur international de Greenpeace, Thilo Baud, ça a été le scandale de la vache folle. Et là, il se rend compte que non seulement il y a un manque de règles cruelles, mais il y a aussi une absence quelque part d'organisation de la société civile aussi indépendante qu'une organisation comme Greenpeace sur l'alimentation. Donc c'est comme ça que Foodwatch a été créé. Et donc l'objectif, c'est de rester 100% indépendant, ça veut dire sans financement des entreprises ni des services publics. Donc c'est vraiment un contre-pouvoir citoyen financé par les citoyens pour être libre de mener des enquêtes, de dénoncer et de faire changer les choses. Maintenant, depuis ça, par rapport à nos objectifs d'une alimentation saine pour tous et plus de transparence, on va y revenir, certaines choses ont changé, et notamment suite au scandale de la vache folle, les réglementations européennes se sont beaucoup renforcées sur la question de l'alimentation en Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des règles qui touchent à notre alimentation sont établies au niveau européen. Donc ça, c'est une avancée. Néanmoins, on reste très vigilant, et d'ailleurs, on a publié une analyse très détaillée l'année dernière sur deux faiblesses. La première, c'est que il y a encore ce qu'on appelle des trous dans la raquette de cette réglementation, hein, par rapport, par exemple, sur obliger davantage les autorités publiques à informer les consommateurs dès qu'il y a effectivement un problème de scandale alimentaire, même quand c'est pas forcément lié à la santé, mais aussi par rapport à la mise en œuvre de ces réglementations. Et on a plein d'exemples. Si j'en prends un, la réglementation européenne, elle parle de façon très claire, et c'est une très bonne chose, du principe de précaution, qui veut que dès qu'il y a un risque crédible scientifique identifié sur, par exemple, une substance dangereuse dans les aliments, par exemple un additif qui fait partie aujourd'hui des produits alimentaires et qui est potentiellement dangereux pour la santé, eh bien, d'après la réglementation européenne, les décideurs politiques devraient tout simplement par mesure de précaution, interdire ces substances dans la production des produits alimentaires. C'est absolument pas le cas aujourd'hui. On doit se battre en fait pied à pied pour faire interdire ces substances quand elles sont identifiées, et c'est un de nos grands combats. Donc ça veut dire que il y a des règles en place, mais il y a beaucoup trop de laisser-faire. Pourquoi il y a ce laisser faire? D'abord parce qu'il y a trop de marge de manœuvre qui sont laissées aux géants de la malbouffe, et parce que aussi, il faut le dire, il y a quand même encore aujourd'hui une idéologie assez libérale chez nos gouvernants, et la France n'en est même pas le cas le plus extrême, mais on y est quand même confronté depuis plusieurs années, y compris avec le gouvernement actuel. Et cette idéologie, elle veut quoi? Elle veut que à chaque fois qu'on demande qu'il y ait des réglementations qui soient un peu plus fortes pour protéger la santé des personnes, on nous réplique très souvent qu'en fait on va pas faire ça, parce que mettre des réglementations plus fortes, ce serait donner des contraintes aux entreprises, mais qu'on va responsabiliser les entreprises en les encourageant à prendre des engagements volontaires. Et ça, c'est dramatique, parce que on sait très bien, et c'est très largement documenté, que ça ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple très concret. Il y a, parmi les problèmes aujourd'hui que l'on identifie, il y a deux choses au niveau de l'impact de l'alimentation sur la santé. Il y a d'un côté l'aspect nutritionnel, donc les trop de sucre, trop de gras, trop de sel. Eh bien, ouais. Il y a un enfant sur six en France qui est en surpoids ou obèse. On sait très bien, c'est même
l'heure. C'est
énorme, absolument. Un enfant sur six. Au niveau de la population adulte, c'est près la moitié de la population adulte en Europe. Donc tout ça est fou. C'est même ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle une épidémie de maladies chroniques, une épidémie d'obésité. Et on parle là de la pandémie de Covid, qui est tout à fait réelle, mais on parle beaucoup moins de ces épidémies silencieuses. Et y a une solution, par exemple, qui est toute simple, qui est promue par l'Organisation mondiale de la santé, qu'on pousse, nous, dans tous les pays européens où on œuvre, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Et en fait, c'est très simple, c'est de réglementer, d'interdire la publicité et le marketing sur Internet et sur les jeux qui ciblent les enfants pour les produits trop sucrés, trop gras, trop salés. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'interdire toutes les publicités, mais celles qui sont pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés et qui ciblent particulièrement les enfants, on demande à ce que ça soit interdit parce que, du coup, ça expose beaucoup trop les enfants à cette malbouffe. Eh bien ça fait 3 ans qu'on le pousse dans tous les projets de loi en France dans lesquels on peut le pousser. Plusieurs députés l'ont proposé, mais le gouvernement et les députés de la majorité l'ont toujours bloqué jusqu'à maintenant en disant, en gros, on ne va quand même pas mettre des règles obligatoires aux entreprises, on va s'appuyer sur des engagements volontaires. Et j'espère qu'on arrivera cette fois à changer les choses quand la réforme de l'audiovisuel, qui là a été mise évidemment en attente pendant cette crise, mais qui devrait reprendre, j'espère que les choses changeront. Mais la vérité, c'est que dans tous les rendez-vous qu'on a dans les ministères, c'est ce que l'on nous oppose. Et je trouve que c'est inacceptable et j'espère que ça fera partie des choses que cette crise permettra de faire changer avec une prise de conscience de l'importance du rôle des autorités publiques, particulièrement sur la question de la prévention pour la santé, de la protection de la santé.
Alors, on peut voir certains messages effectivement à la télé de manger X fruits et légumes, ne mangez pas trop gras, ne mangez pas trop de sucre, etc. Et effectivement, des publicités derrière qui vont à l'inverse total de ce qui vient d'être dit. Après, je réfléchissais pendant que vous me parliez, mais il y a quand même, malgré le fait, on en a parlé toutes les deux précédemment, mais malgré le fait qu'il y a une responsabilité dans l'offre, mais il y a aussi quand même une responsabilisation à avoir quand on est parent. Même si effectivement on n'a pas beaucoup d'argent et que c'est plus simple d'acheter un produit qui coûte pas cher, parce que malheureusement les produits qui coûtent pas cher sont en général ceux qui sont bourrés de trucs qu'il faut pas manger. Enfin, je fais peut-être un lien trop direct, mais grosso modo, quand on n'a pas d'argent, on achète ce qu'on peut acheter et puis on n'a pas forcément l'occasion de se dire attends, est-ce qu'il y a trop de sel, trop de sucre, trop de trucs. Bon, on achète parce que c'est comme ça. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi un sujet de responsabilisation des foyers, n'est-ce pas? Quand même, un minimum. Alors,
bien sûr, en fait, c'est comme dans toute problématique, chacun porte une part de responsabilité. Mais la part de responsabilité des consommateurs ici, elle est minime. Et surtout, il y a beaucoup de sujets sur lesquels même un consommateur éclairé ne peut pas faire le bon choix. Je vous donne un exemple. Un des impacts très très inquiétants sur lequel on est très vigilant de l'alimentation sur la santé, c'est le nombre de substances qui sont en fait des contaminants qui sont potentiellement dangereuses qu'on retrouve dans nos assiettes. Mais pour autant, on ne le sait pas forcément ou c'est très difficile de le détecter. Par exemple, il y a dans nos aliments ce qu'on appelle des huiles minérales. Ce sont des dérivés de pétrole. Personne n'en parle. J'imagine votre tête face
à... Vous m'avez pas face à vous, mais oui, effectivement.
De quoi parle-t-on? Ce sont des contaminants. Toute l'industrie et les responsables politiques en Europe sont au courant. Ce sont des contaminants qui sont dangereux pour la santé puisqu'ils sont reconnus, alors pour le coup, par tous les scientifiques comme potentiellement cancérogènes, mutagènes et perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation pour interdire qu'ils soient dans les produits alimentaires. Food Watch a fait des tests sur des laits infantiles en novembre 2019, qu'on a publié dans les trois pays dans lesquels on est présent en Europe. La Commission européenne s'est penchée sur le dossier, mais il n'y a toujours pas de réglementation. Ce que je veux dire, c'est que quand un consommateur, aujourd'hui, va dans un supermarché et qu'il veut savoir si un produit est sain ou pas, plus ou moins sain, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Et je suis sûre que vous allez me poser la question sur Yuka. Eh bien, il prend son application Yuka. Aujourd'hui, aujourd'hui, si vous voulez, on est dans le règne de la désinformation. Donc, quand on est face à un produit transformé, d'abord, il existe 338 additifs autorisés en Europe, dont un certain nombre pour lesquels on sait qu'ils sont potentiellement dangereux pour la santé et pour lesquels on se bat pour qu'ils soient interdits, ce qui devrait être une évidence. On s'est battu sur le dioxyde de titane, le E171, qui est en fait un nanomatériau qui blanchit les aliments, mais qui ne sert à rien d'autre que ça. On a obtenu sa suspension en France et on continue à se battre pour qu'il soit interdit en Europe. On a lancé une pétition justement avec Yuka et la Ligue contre le cancer en octobre l'année dernière, qui est toujours active, pour demander l'interdiction des additifs à base de nitrite et de nitrate, puisqu'indirectement, on sait qu'ils sont un facteur aggravant, pouvant causer des cancers. Mais tout ça qui devrait couler de source, on doit se battre.
Excusez-moi, je vous coupe deux secondes, mais quand vous dites blanchir des aliments, par exemple, ça peut être quoi?
C'est beaucoup utilisé dans les bonbons, par exemple, quand on veut avoir un chewing-gum très blanc, vous voyez. Alors, de fait, suite au combat de plusieurs ONG, dont Foodwatch, mais pas seulement, on a réussi à le faire suspendre. Et du coup, l'industrie a suivi. Et a même anticipé, et donc on le retrouve de moins en moins dans ces fameux bonbons. Mais c'est un exemple pour dire qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont autorisées, et pour le consommateur, c'est pas du tout facile à détecter. Quand vous avez un produit transformé dans lequel il y a plus d'une trentaine d'additifs, ce qui n'est pas rare, quand on sait que le sucre peut se cacher derrière une vingtaine de noms, ce qu'on a décrit sur notre site pour essayer d'informer les gens, quand on met bout à bout toutes ces informations, plus le fait que le marketing des géants de l'agroalimentaire se fait un malin plaisir dans beaucoup de cas, pas toujours, mais dans beaucoup de cas, d'induire les consommateurs en erreur, ce que l'on dénonce régulièrement dans notre campagne Arnaque sur l'étiquette. Quand vous mettez tout cela bout à bout, il se trouve que aujourd'hui, quand un parent est dans un rayon de supermarché face au rayon des céréales, pour choisir les céréales pour ses gamins, la question qu'il se pose, c'est lequel est le moins dangereux, et il dépend d'un smartphone et d'une application pour voir la note et voir lequel est le moins dangereux. Eh bien ça, c'est ça qui est aberrant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre du recul et se dire, on marche sur la tête, il est inadmissible en France, en Europe, en 2020, qu'on ait même à se poser la question de savoir si un produit est potentiellement dangereux pour la santé et lequel l'est le moins. Parce que on a une réglementation européenne et on a des autorités publiques dont le rôle est de protéger la santé des citoyens, des citoyennes. Et donc, en aucun cas, il n'est permis, en théorie et sur le papier, selon les réglementations, en aucun cas, il n'est permis de commercialiser des produits potentiellement dangereux pour la santé. Pourtant, c'est le cas. Et c'est ces aberrations-là que nous combattons. Parce que c'est pas une fatalité, évidemment ça peut changer et il est hors de question d'accepter ça.
Mais vous devez avoir un quotidien très compliqué parce que forcément, alors vous êtes un contre-pouvoir, mais face à des mastodontes dont on citera peut-être pas le nom, mais je les ai beaucoup en tête, vous devez être quand même très chahuté, non ?
Alors non, pas vraiment en fait, parce que nous on cite toujours les noms parce qu'il y a rien à cacher, et au contraire parce que vous savez. En fait, quand on met au grand jour, quand on met un coup de projecteur et qu'on révèle de façon publique des agissements, des pratiques ou la dangerosité d'un produit, ça change tout. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là ? Et qu'est-ce qui fait que parfois les choses continuent dans le statu quo ? C'est l'opacité et l'impunité. C'est-à-dire que tant que les responsables industriels ou distributeurs et responsables politiques peuvent continuer une certaine inaction ou peuvent continuer, comme ils l'ont fait dans les produits transformés, à les transformer de plus en plus, à retirer de plus en plus de nutriments utiles pour la santé et à les remplacer par du sucre ajouté. Tant que personne ne dit rien, petit à petit, la dérive continue. Mais le jour où on met un coup de projecteur, le jour où justement on publie des arnaques sur l'étiquette avec des produits précis, comme on l'a fait avec le bouillon Knorr cette année, qui combinait 5 arnaques en un produit. Est-ce que c'est le seul ? Pas du tout. Mais on les montre, on les pointe du doigt simplement pour dire voilà un exemple de ce qui n'est plus acceptable et on vous demande de changer. Et grâce à la mobilisation citoyenne, Parce que oui, on est en contre-pouvoir citoyen aujourd'hui, fort de plus de 250 000 personnes qui nous suivent, et ça continue de grandir. Mais c'est vrai aussi, ça c'est vrai pour Foodwatch sur l'alimentation, c'est vrai dans d'autres domaines et pour beaucoup de mouvements de mobilisation, et c'est tant mieux. Quand on est nombreux, et surtout quand on oblige ces responsables à rendre des comptes parce qu'on leur met un coup de projecteur et qu'on leur dit publiquement, voilà, maintenant vous allez expliquer publiquement pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous avez un emballage qui a 5 arnaques sur l'étiquette qui induisent en erreur ? Pourquoi vous continuez à utiliser un additif qui est potentiellement dangereux pour la santé ? Eh bien, ça les oblige en fait à changer leurs pratiques. Et en fait, on le voit aussi avec, vous savez, le Nutri-Score, c'est ce logo nutritionnel qui a été adopté en France, qui montre en fait la qualité nutritionnelle des aliments. Alors pas les additifs, pas les pesticides, simplement la qualité nutritionnelle. Mais c'est déjà une information importante parce qu'elle est facilement accessible et elle compare les produits entre eux. C'est ce logo qui va du vert au rouge, de la lettre O à la lettre E, et qu'on voit apparaître de plus en plus. Et d'ailleurs, on se bat pour que ça devienne obligatoire en Europe. Eh bien, la mise en place de ce logo montre que un certain nombre d'entreprises sont en train de changer la formulation de leurs produits. C'est-à-dire, comme ils ont un intérêt tout d'un coup, comme l'information devient accessible et transparente de la qualité nutritionnelle de leurs produits, ils ont tout d'un coup un intérêt financier à commercialiser des produits qui vont afficher une lettre pas trop nulle. Mmh. Et du coup, ça les oblige à avoir un intérêt et donc une motivation à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Le système n'est pas parfait, mais il a au moins ce mérite-là. Ça prouve que si on les oblige à être transparents, ils sont obligés de changer. Et c'est un peu David contre Goliath, mais c'est un peu, si vous voulez, leur talon d'Achille. C'est pour ça qu'on peut faire changer les choses. Après, vous avez raison, c'est un travail de tous les jours, mais il faut pas lâcher. Ça, c'est sûr que dès qu'on lâche, malheureusement, il se passe autre chose. Mais bon, on est déterminé.
Tout à l'heure, excusez-moi, je reviens un peu plus haut sur notre propos. On parlait d'idéologie libérale. En fait, je me pose une question. Alors après, je veux pas te faire de polémique outre mesure, mais vous qui avez une connaissance nettement plus avancée que la mienne, je me demandais si la situation s'est empirée de manière, on va dire, linéaire, ou est-ce qu'il y a eu des gouvernements ou des mouvances, que ce soit gauche ou droite, que ce soit... Peu importe, je veux pas incriminer un régime contre un autre, c'est pas le sujet, mais est-ce qu'on peut en fait rapprocher les évolutions positives avec un gouvernement ou une Europe plus ou moins axée sur le consommateur, etc. Est-ce qu'il y a des grandes tendances qu'on peut dégager comme ça au travers du temps, à savoir ce gouvernement a fait des choses positives pour le consommateur ou celui-ci a été rétrograde? Est-ce que vous voyez, ou peut-être qu'il n'y en a pas, hein, je ne me rends pas compte, mais est-ce qu'on peut quand même essayer de sentir une tendance ?
Globalement, la tendance lourde, elle a été effectivement la même progressivement, sans rentrer dans le détail. Il y a eu la loi Hamon qui a amélioré les droits des consommateurs, mais enfin, c'était surtout parce que ça répondait à un gros scandale qui était le scandale de la viande de cheval. Donc je ne crois pas que ce soit lié à un gouvernement plus qu'à un autre. Le problème, si vous voulez, c'est que la tendance de fond, et encore une fois, j'espère que les remises en question que soulève justement cette crise du Covid-19 et l'espace aussi que ça nous donne de nous remettre en question et de revoir peut-être comment on gère cette démocratie et quels choix politiques et sociétaux on fait, j'espère que ça va pas changer les choses. Mais la vérité, c'est quoi ? En gros, les trois tendances, c'est quoi ? Il y a eu progressivement une transformation de plus en plus forte de l'alimentation, avec tout le lot, si vous voulez, négatif sur la santé qui est de plus en plus documenté. Pour les grandes tendances de fond, il y a eu quoi ? Il y a eu une transformation progressive et de plus en plus des produits alimentaires, avec tous les problèmes que ça pose, qui sont de plus en plus documentés sur l'impact sur la santé. Il y a eu également une concentration des forces, une concentration des acteurs qui ont de plus en plus de pouvoir. Regardez le poids des distributeurs aujourd'hui, par exemple, et les rapports de force qui s'installent. Il y a eu aussi une complexification des chaînes de distribution, d'achat. Ce que le scandale de la viande de cheval nous a surtout révélé quand on pensait que c'était de la viande de bœuf et que c'était de la viande de cheval, vous vous en rappelez, en 2005. Ce qui nous a surtout révélé, ce sont des chaînes d'approvisionnement, du nombre incroyable d'intermédiaires entre une viande qu'on achète en Pologne, qui transite par Amsterdam, qui est revendue en Espagne, qui revient en France, des chaînes incroyablement complexes qui font que la traçabilité, qui est censée être une obligation européenne, n'est pas du tout assurée, et qui, par exemple, fait qu'on est encore aujourd'hui confronté régulièrement à des scandales alimentaires. Surtout, il y a une lame de fond qui dépasse largement tout ça. Et cette lame de fond, ce sont les fameux accords de commerce qui sont négociés par l'Union européenne avec plein d'autres pays. Et là, je fais référence, vous en avez sûrement entendu parler, au TAFTA qui était en négociation avec les États-Unis, au CETA qu'on a finalisé avec le Canada et qui a été voté vraiment à la va-vite au mois de juillet 2019 à l'Assemblée nationale et dont on attend le vote au Sénat. Et dont on espère que le Sénat va le bloquer. Parce qu'en quelques mots, ces accords de commerce de libre-échange, on n'est absolument pas opposé au commerce. L'idée, c'est pas d'être contre la mondialisation de façon générale, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, même s'il faut se reposer plein de questions aujourd'hui sur la relocalisation et tout ça. Mais c'est de bien comprendre quels sont les enjeux. Et ces nouveaux accords de commerce, comme celui avec le Canada, le Mercosur qu'on est en train de négocier avec le Brésil, par exemple, et beaucoup d'autres, leur objectif principal, c'est d'éviter qu'il y ait des réglementations plus protectrices pour les citoyens et l'environnement, parce que toute règle de société est vue comme une barrière au commerce. Mmh. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, des accords de commerce, c'était surtout pour baisser les droits de douane. Aujourd'hui, il y en a presque plus. Et donc, l'enjeu des nouveaux accords de commerce, là où les plus libéraux et les multinationales et leurs lobbies poussent à fond, c'est de faire en sorte que quand on signe ces accords de droit international, c'est-à-dire très puissants, on s'engage quasiment avec nos partenaires commerciaux à ne pas pouvoir décider de nouvelles règles pour protéger les citoyens ou l'environnement, ce qui est le contraire de ce que beaucoup de gens veulent aujourd'hui. Parce que si on met des nouvelles règles, on risque d'être attaqué par ces fameux partenaires commerciaux sous prétexte qu'on est en train de mettre des barrières au commerce. Et c'est pas de la science-fiction. Et ça arrive déjà. On l'a expliqué en vidéo sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Si pour certains de vos auditeurs ils veulent aller plus loin, mais c'est vraiment pas de la science-fiction. C'est déjà arrivé qu'on se fasse attaquer. Et ce que ça veut dire, c'est pour ça que j'en parle, c'est que si ces accords sont signés et validés en l'état, on peut avoir toutes les discussions du monde que l'on veut en France ou en Europe sur de nouvelles règles sociales, sur de nouvelles règles de protection du climat, des nouvelles règles contraignantes sur les entreprises, une meilleure alimentation, interdire des OGM, etc. Ça n'aura pas beaucoup d'impact, puisque en fait, on aura signé des accords internationaux qui nous empêcheront de décider de façon démocratique de la façon dont on veut gérer nos propres sociétés en Europe. Je sais que ça a l'air fou, dit comme ça, mais c'est très concret et il faut voir ces menaces-là parce que c'est aussi une façon dont ce bulldozer ultra-libéral, ça fait longtemps que je dis plus néolibéral parce que c'est plus nouveau hein, depuis les années 70, et ce bulldozer ultra-libéral continue en fait d'écraser nos démocraties. Et ça, il faut le dire haut et fort parce que c'est un danger contre lequel il faut absolument qu'on s'érige tous collectivement.
Mais ça se résume à ne plus acheter certaines marques, parce qu'en fait, ce que moi j'ai du mal à cerner, je conçois tout à fait ce que vous me dites, et limite je trouve ça terrifiant, mais c'est quand même des forces en marche qui, a priori, mixent et mêlent l'Europe, des décisions qui sont au-delà de nous, c'est-à-dire des décisions internationales ou européennes, avec des lobbies surpuissants, ça peut être des lobbies du sucre, du gras, de l'huile, de je sais pas, enfin X et Y, mais c'est-à-dire que nous, comme ça, à notre échelle, encore une fois, je veux pas faire de populisme déplacé, mais c'est-à-dire que ça consiste à boycotter certaines marques, ça consiste à faire quoi concrètement, parce que moi, je suis toujours un peu attristée du constat sans solution et sans action potentielle pour les gens qui, au quotidien, se disent bon bah. Ok, il se passe ça à Bruxelles, il se passe ça je sais pas où, mais moi je mets quoi dans mon assiette? Alors je sais que ça fait un peu bêta d'avoir ce raisonnement, mais malgré tout c'est un peu ce qu'on se dit naturellement en fait, quand on a trois enfants ou même quand on est célibataire, peu importe. Mais c'est ça moi qui me chagrine en fait.
Il y a deux choses et elles sont pas du tout excluantes. Au contraire, il faut les deux. Il y a évidemment ce qu'on peut faire chacun au niveau individuel. Donc on le sait, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut adapter et on peut être vigilant dans nos façons de consommer et avoir des modes de consommation plus responsables. On peut acheter localement à notre petit producteur si on a la privilégier les circuits courts. Voilà, ne pas forcément nourrir la bête des grands distributeurs. Même si nous on n'est pas contre eux, mais il y a plein de choses qu'on peut faire qui peuvent participer. De redonner en tout cas du sens, du lien social, de la valeur locale et contribuer à une justice sociale et environnementale qui a plus de sens. Néanmoins, il faut aussi évidemment agir au niveau politique. Et agir au niveau politique, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement les maires ou les députés ou les ministres qui peuvent le faire. C'est nous, collectivement, il faut qu'on unisse nos forces pour le faire. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si je reviens sur ces accords de commerce, quand l'Union européenne a décidé d'interdire les importations de bœuf aux hormones dans les années 90, on a été attaqué. On a été attaqué par les États-Unis, le Canada et beaucoup d'autres pays devant l'Organisation mondiale du commerce. Et on a perdu. On a perdu parce que l'Organisation mondiale du commerce ne reconnaît pas le principe de précaution qui est très fort en Europe mais qui n'existe pas dans les autres pays et qui les embête beaucoup, qui est ce que je décrivais tout à l'heure, que quand il y a un risque pour la santé, les responsables politiques, les législateurs sont en droit de prendre une décision de précaution et donc d'interdire des substances. Mmh. Donc quand on a interdit l'importation de bœuf aux hormones, quand on a à un moment donné fait un moratoire sur les OGM, on a systématiquement été attaqué par ces puissances. Aujourd'hui, quand on signe des accords de commerce, au lieu de se protéger de cette menace, on la renforce parce qu'on ne met rien dans ces accords pour dire, au fait, si on prend une décision sur la base du principe de précaution pour protéger notre santé ou l'environnement, vous devez vous engager à ne pas nous attaquer. Mmh. Donc, ils vont nous attaquer. Ils vont nous attaquer aussi devant des tribunaux spéciaux qui sont faits pour les investisseurs. Je ne rentre pas dans les aspects techniques. Mmh. C'est pas en boycottant une marque ou avec ma consommation au quotidien que je vais pouvoir l'arrêter.
D'accord.
La seule façon de l'arrêter, c'est d'avoir une mobilisation citoyenne et un impact au niveau des responsables politiques et des décisions politiques pour à un moment donné imposer que les choix politiques changent et aillent enfin dans le sens de l'intérêt général. Et ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on réunisse nos forces, c'est pour ça qu'on existe à Foodwatch, mais encore une fois, et qu'on collabore avec beaucoup d'autres, parce que il faut beaucoup de mouvements citoyens, et surtout, il faut qu'on soit coordonnés entre nous pour avoir du poids. Est-ce qu'on a réussi pour le moment à stopper le CETA, l'accord avec le Canada ? Non, on n'a pas encore bloqué cela. Néanmoins, les débats montent. Et par exemple l'accord TAFTA avec les États-Unis, en revanche, lui n'est pas allé au bout parce qu'il y a eu une telle mobilisation citoyenne et sociale contre que quand même ça devenait gênant de le signer. Donc pour ça et toutes les autres décisions qui vont porter au niveau européen, il faut qu'on se mette ensemble. Et surtout, il faut qu'on se mette ensemble parce que la pire des réponses à apporter à tout ça, ce serait le repli sur soi.
Bien sûr.
Nous, ce qu'on veut, c'est pas moins d'Europe. Au contraire. Il faut une Europe, il faut plus d'Europe, mais par contre, il faut une Europe plus démocratique, plus transparente.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et plus solidaire. Parce que en fait, on n'a pas d'Europe aujourd'hui, on a seulement une Europe économique et financière. Et c'est bien ce qui a fait défaut dans toutes les crises qu'on a traversées, que ce soit celle de la dette en Grèce, des réfugiés, syriens et autres, et aujourd'hui dans la gestion du Covid. Donc, je suis pas en train de dire la mondialisation c'est mal et il faut se replier sur soi. Je suis en train de dire il faut absolument revoir les priorités, les décisions politiques et où on met le curseur. Le curseur, il y en a marre qu'il soit sur les intérêts privés plutôt que sur l'intérêt général, sur les communs, mais les propriétés, si vous voulez, privées. Donc, il est urgent de remettre au centre des décisions politiques l'intérêt général, La santé publique, le lien social, les solidarités, réduire les inégalités. Il y a plein de propositions. Heureusement qu'il en existe des solutions. Il y en a plein. Il y a plein de propositions économiques. J'aurais écouté Thomas Piketty l'autre jour dans une tribune. Il y a plein de réflexions aujourd'hui sur comment on pourrait faire les choses différemment. On le sait très bien comment on pourrait faire beaucoup de choses différemment. C'est une question de volonté politique. Et pour ça, nous, les citoyens, on est là. Et on ne doit plus laisser le choix aux responsables politiques. Et d'ailleurs, on doit s'engager nous-mêmes, non pas forcément dans un parti politique, mais on doit s'engager dans l'action pour faire bouger les choses.
Je suis désolée d'avoir à vous poser cette question parce qu'on doit vous la poser de manière récurrente. Mais voilà, vous articulez votre combat, on va appeler ça comme ça, autour de plusieurs thématiques. Il y a l'alimentation et la santé, la transparence, la politique et les lobbies, etc. Mais pour revenir juste un tout petit peu sur l'alimentation et la santé, on le sait, il y a des pesticides, des additifs et des emballages qui sont toxiques. Avec plaisir, je renverrai, je suppose, je ne vais pas vous demander d'énumérer la liste maintenant, mais est-ce que sur votre site, on peut trouver une sorte de carte de repère pour les additifs qui sont vraiment dangereux pour la santé, les emballages,
oui, bien sûr,
etc. Enfin, je préfère le renvoyer autant poursuivre notre discussion sur autre chose, mais voilà, sachant que sur votre site, je pense qu'il y a des références qui sont solides concernant ce qu'on peut prendre ou pas et ce qu'on peut acheter ou pas. Ouais. Alors là, par contre, c'est un sujet qui m'a perturbée et encore plus depuis 2 jours parce que j'ai regardé un documentaire recommandé par Jacques Attali, pour ne pas le citer, mais c'est un documentaire sur Arte qui est disponible sur Arte qui s'appelle « Demain tous crétins » et qui fait le lien entre le développement du cerveau et les perturbateurs endocriniens. Alors le sujet des perturbateurs endocriniens, on l'a abordé je crois courant de l'année dernière, de mémoire je crois à peu près. Mais moi, j'avoue que j'y avais pas compris grand-chose parce que je trouvais que l'information était complètement... Alors, peut-être que les scientifiques et les gens beaucoup plus informés que moi sont au courant de ce qu'il en est. Mais est-ce que vous pourriez expliquer de manière assez simple, d'abord, ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien et où est-ce qu'on en trouve, en fait, tout simplement ?
Je vais pas savoir donner l'explication technique, je préfère vous le dire.
Non, technique, mais dans les grandes lignes.
Donc, dans les grandes lignes, ce qui se passe effectivement, c'est que ce qui est aberrant aujourd'hui, c'est que on retrouve dans notre alimentation des substances qui sont potentiellement dangereuses pour la santé. Mmh. Et il y a une grande catégorie effectivement qui sont les perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens, comme leur nom l'indique, en fait, ils ont un impact sur notre système hormonal. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous encourage à aller voir le site du réseau Environnement Santé.
Oui.
Son président, le professeur, son président André Cicolella, explique oui, ça en détail.
Il est génial d'ailleurs. Je voulais l'interviewer.
Voilà. Et ils luttent. C'est vraiment leur combat central. Et d'ailleurs, nous collaborons pour obtenir une réglementation contre la contamination des aliments par les fameuses huiles minérales dérivées de pétrole dont je parlais tout à l'heure, parce que eux-mêmes sont perturbateurs endocriniens. Donc, ça a un impact sur le système hormonal et donc sur le développement, en fait, sur le développement des enfants, des ados, avec des effets très variés, mais assez délétères, à la fois parfois sur l'aspect du genre, mais comme vous le disiez aussi, sur le développement du cerveau et beaucoup d'autres choses. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'a rien à faire dans nos assiettes. Pour être clair, même s'il y a encore beaucoup d'inconnus scientifiques, beaucoup de recherches, parce que la recherche n'a jamais fini, et c'est tant mieux, il faut qu'ils continuent à documenter les choses. Mais ce qui est évident, encore une fois, d'un point de vue assez de bon sens et de protection de la santé et de principe de précaution, c'est de se dire, OK, tout ce qui comporte des perturbateurs endocriniens ou présente ce risque-là devrait sortir de nos assiettes. Ouais. Sauf que ce n'est pas si simple, parce que justement, une des stratégies des lobbies, des lobbies des pesticides, mais comme ça a été le cas pour le lobby du tabac et beaucoup d'autres, une des stratégies classiques des lobbies qui ne veulent pas qu'il y ait de réglementation parce qu'ils veulent continuer à vendre leurs produits, même quand ils sont dangereux pour la santé, c'est de créer du doute et de créer de la confusion. Donc, c'est facile de parler de perturbateurs endocriniens comme ça, mais finalement, comment on définit des perturbateurs endocriniens ?
C'est ça la vraie question. Scientifiquement. De ce que j'ai cru comprendre, il y en a aussi dans les produits qu'on nettoie chez nous.
Il y en a partout, et pas seulement dans l'alimentation, bien sûr, il y en a, et c'est un sujet de préoccupation, y compris dans la vie quotidienne, les produits d'entretien, etc. Okay. Mais là où je veux en venir, c'est que qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Il s'est passé qu'il y a eu à un moment donné un coup de projecteur mis sur ce sujet, qui est remonté jusque du coup aux institutions européennes, les institutions européennes étant beaucoup composées, je le rappelle, des États membres, hein, donc il ne s'agit pas de taper sur Bruxelles, c'est bien l'ensemble des décideurs dans toute l'Europe, y compris français. Et donc, il a été question que soit défini au niveau européen ce qu'étaient exactement les perturbateurs endocriniens. Et là, il y a eu tout le jeu des rapports de force, des lobbies, pour tenter, pour gagner du temps, si vous voulez, créer de la confusion, créer des rapports de force, créer du doute. Et ça a pris des années. Donc, ça a maintenant évolué. Mmh. Et du coup, pour les auditeurs que ça intéresse sur cet exemple du jeu des lobbies et comment ça se passe, je vous invite à lire le livre de Stéphane Aurel, qui est journaliste d'investigation et journaliste au Monde aussi, mmh. et qui a écrit un livre qui s'appelle Intoxication,
ouais.
Qui a écrit un livre aussi qui s'appelle Lobitomie, et Intoxication, qui était avant Lobitomie, portait précisément sur ce sujet-là des perturbateurs endocriniens. Voilà, donc on est là encore face à un sujet où on a une question de santé publique, qui devrait donc être prioritaire, et où les décisions qui devraient être prises sont retardées, en tout cas, à mon sens, ça prend un temps qui est inacceptable, parce qu'il y a du doute qui est créé et que certains font tout pour qu'il n'y ait surtout pas de règles contraignantes pour leur business. Maintenant, c'est vrai aussi, malheureusement, y compris dans des cas encore plus simples, j'ai envie de dire, qui devraient être simples. Si je reviens sur le cas du fameux additif E171, donc il y a un nanomatériau. Alors nanomatériau, ça veut dire que c'est des micro-particules, et donc c'est ça notamment qui pose un certain nombre de risques et de dangers pour la santé. Scientifiquement, il y a vraiment beaucoup d'études, c'est tout à fait documenté, noir sur blanc, qui indiquent des risques crédibles de la part de cet additif. C'est d'ailleurs pour ça que, à force d'efforts en France, de plusieurs ONG, on a fini par réussir en 2018, quand il y a eu la loi pour l'agriculture et l'alimentation, un des rares trucs qu'on ait obtenu, ça a été qu'il y a une suspension en France de l'utilisation de cet additif dans les produits alimentaires. Mais quand on a finalement obtenu cette loi, on pourrait se dire on va sortir le champagne et c'est fini. Pas du tout. C'est pour ça que vous aviez raison tout à l'heure. C'est un combat au quotidien. Mais ensemble, on peut le mener. Mais il n'a pas fallu s'arrêter parce que il se trouve que Bruno Le Maire était assez réticent à mettre en œuvre cette loi parce qu'il ne voulait pas mettre de contraintes aux fabricants. Donc on a dû faire une tribune à plusieurs associations et l'interpeller publiquement, puis le rencontrer en janvier l'année dernière pour que finalement il s'engage à mettre en œuvre, à décider cette suspension en avril l'année dernière, ce qu'il a fait.
Vous l'avez rencontré ?
On l'a rencontré, oui. Ouais, je l'ai rencontré personnellement du coup avec d'autres représentants d'associations en janvier l'année dernière, où il a reconnu qu'il avait dit des maladresses dans les médias et finalement il est revenu en arrière, j'ai presque envie de dire enfin en avant, pour prendre cette décision. Mais cette décision, ça a été une décision d'une suspension d'un an, donc il faut qu'on reste vigilant sur ce qui va se passer en 2021, parce que pour le moment, la suspension, elle est qu'en 2020. Et depuis, on se bat au niveau européen pour que les autres États membres de l'Union européenne ne bloquent pas cette décision, or certains ont envie de la bloquer, et pour que cette décision, qui est aujourd'hui uniquement en France, soit élargie à l'échelle européenne, parce que ça n'a pas de sens d'interdire un additif en France et non pas en Europe. Et ce qui est révoltant, c'est que du coup, là où on devrait, au moins dans les 338 additifs, pouvoir faire interdire facilement ceux qui posent le plus de questions, ceux qui sont le plus controversés pour la santé, en fait, on doit se battre pied à pied et on doit les prendre un par un. Mais au final, c'est dommage, c'est scandaleux, mais on va y arriver quand même, et c'est d'autant plus pour ça qu'il faut qu'on lâche pas et qu'on soit tous solidaires pour faire contrepoids, contre-pouvoir et exiger que notre santé soit protégée. Malheureusement, ça demande tous ces efforts, mais pour autant, il faut d'autant plus le faire, quoi.
Non, c'est la notion, je me souviens de mes expériences passées, c'est la notion de consommateur, c'est-à-dire qu'à une époque, on était des consommateurs, presque passif, et maintenant il faut qu'on ait une démarche active en fait dans notre manière de consommer et qu'on ne peut plus se permettre de juste être des réceptacles d'un produit qu'on nous vend et voilà, il faut être méfiant, il faut être profondément méfiant.
En tant que citoyen surtout, ouais, en tant que citoyen et citoyenne, ouais. Ouais, avant même de parler de consommateur si vous voulez. On joue tous un rôle au moment de nos achats, mais comme je le disais, malheureusement, on n'a pas forcément l'information, loin s'en faut, du coup, et la capacité d'agir seulement au moment de nos achats. Donc, il faut aussi qu'on compte dans les décisions politiques, dans le paysage politique, non pas au sens politicien qui pourrait être décourageant, mais au sens politique, au sens organisation de la vie de notre société et le rôle qu'on veut jouer pour influencer ces décisions.
On en parle depuis tout à l'heure en filigrane. Quels sont les scandales récents qu'on a un peu laissé passer à la trappe ? C'est-à-dire que j'ai le sentiment, même si je me trompe, qu'un scandale en remplace un autre, que finalement le truc sort, va durer 24 heures, on va en parler les 10 jours maximum dans la presse, et puis après, pff, ça fait un effet plouf. Sauf pour des gens qui vont avoir envie de creuser, envie d'avoir de comprendre, d'avoir une information vraie et réelle. Mais là, dans les 5 dernières années, ou peut-être les 3 dernières années, peu importe, mais les gros scandales en fait que vous avez en tête, ce sont lesquels ?
Oui, ben il y a deux types de scandales. D'abord, il y a les scandales alimentaires, malheureusement qui continuent, donc après et qui sont, on les a très très largement documentés là aussi sur notre site. Il y a eu le scandale de la viande de cheval, on en parlait tout à l'heure en 2005, et puis il y a eu son procès en 2019 qu'on a suivi de très près, parce que pour nous une des raisons qui fait que malheureusement on a encore aujourd'hui un contexte où les conditions sont réunies pour que les scandales continuent de se répéter, c'est le manque de sanctions dissuasives lorsqu'il y a un scandale qui apparaît.
Ouais.
Et là, au moment du scandale de la viande de cheval et au moment du procès l'année dernière, ça n'a pas loupé. Hein. C'est-à-dire que quand on compare, j'ai plus le chiffre en tête, mais on a fait un communiqué de presse l'année dernière dans lequel il y a ces chiffres-là. Il y avait le chiffre d'affaires qui avait été fait par Spanghero sur un certain nombre de mois, qui était colossal. Et en miroir, on voyait la sanction financière qui tombait à la fin du procès et qui était bien moindre.
Ouais.
La conclusion, c'est que ça valait le coup de frauder, quoi. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on connaît des cas de récidivistes, dont un des traders hollandais de ce scandale de la viande de cheval, qui, je crois, s'était retrouvé en Espagne. Mmh. Donc il y a déjà ce problème-là. Les autres scandales, pour illustrer, pour conclure là encore sur comment on peut y remédier, parce que c'est ça qui est intéressant. Heureusement, rien de tout ça n'est une fatalité. Mais il y a eu évidemment le scandale des œufs contaminés au fipronil. Vous vous en rappelez peut-être.
En toute honnêteté, non. Ouais. C'est grave. Hein, mais...
Non, c'est pas grave. Vous avez raison parce que c'est pas resté suffisamment longtemps dans les actualités. Mmh. Mais en fait, il y a des le fipronil, c'est une substance qui est interdite en fait d'usage en Europe. Certains poulaillers aux Pays-Bas avaient utilisé cette substance interdite et du coup par ricochet on a retrouvé des œufs contaminés avec cette substance et en fait ça a été déclenché depuis les Pays-Bas et puis ça a fini par toucher énormément de pays y compris la France. Ouais. Parce que là encore les chaînes de distribution sont extrêmement internationales et ça veut pas dire qu'il faut qu'elles soient je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout relocaliser. Il faut relocaliser un certain nombre de choses, ça c'est sûr, parce qu'il y a, il y a beaucoup d'aberrations dans les cheminements du bétail, des céréales, etc. au niveau mondial. Mais là, ce n'est même pas le sujet. Le sujet, c'est de dire qu'il y a une obligation de traçabilité normalement. Mmh. Donc, dès lors qu'il y a un problème, il devrait y avoir des systèmes d'alerte efficaces et de traçabilité. Il y a des systèmes d'alerte qui existent aujourd'hui au niveau européen. Nous, on les surveille de près. Mmh. Un réseau qui s'appelle le RASFF et qui est un réseau effectivement de coordination entre les États membres européens qui s'alertent mutuellement dès qu'il y a une alerte sanitaire sur un produit alimentaire. Enfin là, l'alerte n'a pas marché, elle a mis trop longtemps. Mmh. Et surtout, ce qui était flagrant, c'était l'opacité pendant tout ce scandale. C'est-à-dire que quand on a ce type de scandale, comme quand on a eu le scandale ensuite du lait, là vous allez vous en rappeler parce que c'est parti de la France et c'est le scandale du lait Lactalis contaminé.
Je m'en souviens très très bien.
Alors ça le scandale du lait Lactalis contaminé au salmonelle, c'était extraordinaire parce que du coup c'était en décembre. Oui. J'ai un doute sur l'année 2017, je crois. Oui. En décembre 2017, c'est ça. Alors, on apprend début décembre 2017, on apprend qu'il y a des nourrissons qui sont malades et que les autorités remontent à une usine de Lactalis, et que du coup il y a suspicion de contamination de salmonelle. Et puis nous on creuse un peu et on se rend compte très vite que cette même usine avait été contaminée des années avant déjà par de la salmonelle, en 2005 je crois. Et donc tout de suite on a écrit à Lactalis et on a écrit au ministère en disant il se passe quoi et est-ce que vous, on vous demande d'être transparent par rapport à ce qui se passe, que les informations soient claires pour les consommateurs, et est-ce qu'il y a un lien avec ce qui s'était passé des années avant. Évidemment on n'a pas eu de réponse, on en a eu plus tard, mais là on en a pas eu. Et après on a appris les choses mais absolument au compte-gouttes. Et finalement, en janvier, même les distributeurs se sont pris les pieds dans le tapis, puisqu'il y a eu le scandale des retraits rappels des laits du coup pour bébés potentiellement contaminés, mais qu'on retrouvait dans les rayons. Ils étaient soi-disant enlevés de la vente, et puis finalement, on les retrouvait dans les rayons. Enfin, c'était un feuilleton absolument rocambolesque, et qui nous a montré encore une fois deux choses. Un manque de traçabilité qui fait que là encore, ce problème des laits potentiellement contaminés par les salmonelles de Lactalis s'est retrouvé dans plus de 80 pays. Nous, on suivait le nombre de pays, etc. On en était à 84, puis 86. Enfin, ça... Donc, à chaque fois, ces scandales prennent des proportions incroyables. Oh. Et il n'y a pas une traçabilité suffisante pour être assez réactif. Or, c'est la responsabilité de chaque acteur dans la chaîne. Et surtout, il y a un manque de transparence criant. Alors, de la part de Lactalis, même Bruno Le Maire et des députés et sénateurs se sont agacés. Il y a même eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale après où on a été auditionnés. Mais même de la part des autorités, et en fait, on a une pétition depuis et qui est toujours en cours, qui demande aux autorités du ministère de l'Économie et de l'Agriculture de publier, de rendre transparents les résultats de tous les contrôles qu'ils font dans les entreprises agroalimentaires. Oh. Parce que nous, on part du principe que la transparence, ça redonnerait de la confiance, et que là encore, partout où il y a un manque de transparence et de l'opacité, bah c'est un peu forcément la porte ouverte à des dérives, quoi. Oh. Mais juste pour finir, il y en a eu 3 ou 4 autres des scandales alimentaires dont les médias ont assez peu parlé, et surtout pour lesquels on a insisté auprès des autorités publiques pour avoir des informations. On les a obligés à en donner un certain nombre de ces informations. Par exemple, il y a eu le cas des faux steaks qui venaient d'Europe de l'Est et qui ont été malheureusement distribués à des associations pour les plus démunis. Mais il y a eu d'autres cas. On a réussi à les obliger à publier une partie des informations, mais jamais assez. Et ça, c'est un combat de tous les jours qu'il faut qu'on continue à mener. Il n'est pas acceptable qu'il y ait un manque de transparence sur ce qui se passe. Et aujourd'hui encore, pour tout vous dire, pendant cette crise, on a découvert, parce qu'on suit là ce qui se passe pendant la crise au niveau de l'alimentation.
Oui, j'allais vous en parler justement.
Et une des choses qui se passe, c'est qu'en fait il y a un assouplissement sur certaines règles sur les industries agroalimentaires pendant la crise. Bon, alors on peut comprendre que dans une certaine mesure, vu les conditions, le confinement, pour ne pas pour limiter en tout cas l'exposition de certains travailleurs ou même contrôleurs, on peut comprendre qu'il y ait certains ajustements de règles. Mais ce que l'on demande au ministère de l'Économie et à la répression des fraudes, c'est la plus grande transparence par rapport à ce qui se fait. Et on a communiqué il y a 10 jours, parce qu'on a appris qu'il y avait, par exemple, la possibilité jusqu'au moins au 1er juin, et ce sera peut-être étendu, que les fabricants changent les recettes, en fait, les compositions des produits alimentaires transformés qu'ils vendent, sans pour autant en changer l'emballage, et donc sans en informer les consommateurs. Et donc, on a demandé à la répression des fraudes pendant plusieurs jours de dire « mais ok, mais comment ça se passe ?» Et au minimum, il faut vraiment être super transparent, que les gens sachent. Notamment, évidemment, ça pose des questions en plus par rapport aux allergies potentielles, mais pas seulement.
Mais c'est très grave. Ça veut dire qu'en plus, on peut avoir un truc, je sais pas moi, dans un gâteau ou dans un... effectivement, auquel on peut être allergique, mais ça peut durer même après le 1er juin, puisqu'ils auront produit des trucs qui vont se retrouver en stock à un moment ou à un autre.
Ben, c'est ce qu'il faut déterminer. Alors, il n'est pas question de jouer sur les peurs. Donc, ils nous ont répondu que les aspects allergiques, ils les prenaient en compte. Bon, si vous voulez, on l'espère bien. Mais quand bien même, la question, c'est une question de transparence. C'est-à-dire que déjà, nous, on se bat le reste de l'année pour exiger plus de transparence de la part des fabricants et des autorités sur les emballages qui ont tendance à raconter un peu n'importe quoi quand même, dans beaucoup de cas. Mais en plus, là, on nous dit carrément, bon, il y a une flexibilité, parce que quand même, c'est compliqué, donc si ça se trouve, l'emballage ne reflètera pas ce qu'il y a dans le produit. Encore une fois, on veut bien être compréhensif, mais pas sans précondition. Et la précondition, c'est la précondition de transparence. Et pour tout vous dire, on a réécrit à la répression des fraudes aujourd'hui même, parce que contrairement, enfin, ils nous avaient dit qu'ils allaient mettre en place un site internet très clair, très transparent, et à notre connaissance, il est toujours pas en place. Mmh. Donc on leur a écrit aujourd'hui même en leur disant, c'est quoi l'histoire? Il faut impérativement que vous soyez plus transparent et que les fabricants le soient. Mmh. Et donc là encore. Ce qui est assez contrariant, c'est que du coup, il faut être là, il faut pas lâcher, mais en ne les lâchant pas, on obtiendra plus de transparence. Mmh. Et du coup, ça limitera les choses. Mais il faut ce contre-pouvoir. Sans contre-pouvoir, on est dans un statu quo. Et avec un contre-pouvoir, on peut faire avancer les choses. C'est ça le constat.
Quel est votre sentiment sur des exemples d'avancées? C'est-à-dire, est-ce que vous avez en tête quand même des grandes avancées où on peut se dire, bon, allez, on peut voir quand même le verre à moitié plein et se dire, bon, bah, il y a déjà eu ça, ça et ça de positif, en fait, tout simplement.
Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, déjà, en Europe, on a une réglementation européenne sur l'alimentation qui a été très renforcée depuis le début des années 2000. Mmh. Donc, nous, on pointe du doigt ces insuffisances et surtout, il est nécessaire de la mettre beaucoup plus en œuvre, de façon beaucoup plus efficace et stricte, mais ça a le mérite d'exister. On a aussi, dans les textes européens et dans la Constitution française, la chance d'avoir ce principe de précaution. Hein, qui, encore une fois, permet qu'on prenne des décisions politiques et d'interdire, par exemple, des substances qui sont potentiellement dangereuses.
Voilà, c'est ça la précaution, c'est-à-dire on ne sait pas, mais par précaution, on évite.
Voilà, alors que dans beaucoup d'autres pays, à commencer par les États-Unis et le Canada, c'est pour ça qu'ils nous embêtent avec les accords de commerce, ouais. Pour eux, tant qu'il n'y a pas la preuve définitive qu'un produit est dangereux, on ne peut pas l'interdire. C'est-à-dire que la charge de la preuve, elle est sur le législateur. Ouais. Alors que pour nous, la charge de la preuve, elle devient quasiment sur le fabricant.
Ouais.
Donc ça, c'est chouette qu'il soit dans les textes. Après, il est malheureusement beaucoup mis en danger et pas suffisamment appliqué. Donc on se bat pour qu'il soit appliqué, mais c'est une force que l'on a, que ce soit dans nos textes. Et après, on se rend compte qu'avec, encore une fois, la mobilisation, on arrive à faire changer des choses. Les accords de commerce continuent d'avancer, mais enfin, on leur a mis des bâtons dans les roues, et le TAFTA, même s'il ressort là un petit peu, il revient par la fenêtre, mais il avait été arrêté. Comme je vous le disais, après, il y a des exemples très concrets sur les additifs. Ce E171 qui a été arrêté en France, on va pas lâcher pour le faire interdire en Europe. Sur les pesticides, la France aussi a pris la décision d'interdire la production et l'exportation de pesticides qui sont bannis en Europe. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pesticides dont l'utilisation est interdite en Europe, mais pour lesquels la production et l'exportation ne sont pas interdits. Alors, c'est complètement différent, mais du coup, évidemment, beaucoup en profitent. Et donc là, on a ciblé notamment Bayer, Syngenta et BASF pour leur demander à travers une
Bayer qui est la société qui a racheté Monsanto, on peut le préciser.
Exactement, Bayer qui a racheté Monsanto et d'ailleurs ces entreprises en ce moment sont en train d'écrire à toutes les institutions pour profiter de la crise et dire que les choses sont difficiles et qu'il faut surtout pas leur mettre
de bâton
dans les roues. Donc ça, c'est le travail classique des lobbies. Mais bon, il y a eu cette décision qui a quand même été prise en France d'interdire la production et l'exportation de ces pesticides. Pareil, on va chercher à l'étendre au niveau européen. Il y a eu également ce logo nutritionnel dont je parlais tout à l'heure, le Nutri-Score. C'est pas parfait, ça ne concerne que l'aspect nutritionnel et ça n'est qu'un affichage, mais c'est essentiel pour informer tous les consommateurs. Et ça, ça a été une bataille de longue lutte. Nestlé, par exemple, a été contre pendant des années et a cherché à faire de la contre-information, de la désinformation sur ce sujet. On n'a pas arrêté de le dénoncer et finalement, ils l'ont adopté, mais aussi des dizaines d'autres entreprises. Et surtout, c'est en train de monter maintenant en puissance au niveau européen. Et on espère qu'enfin, ça pourra être rendu obligatoire en Europe, parce qu'il est hors de question que ça reste un engagement volontaire. Okay. Il faut quand même savoir qu'en 2010, les lobbies de l'industrie agroalimentaire avaient dépensé 1 milliard d'euros pour bloquer la décision d'un tel logo obligatoire. Donc si là maintenant, en 2020, on y arrive enfin, on aura perdu plus d'une dizaine d'années, mais on va peut-être finir par gagner la bataille. Donc il y a des choses qui avancent, mais moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, et c'est pour ça qu'on continue à pousser et que je veux y croire, c'est que on avance de façon, à un moment donné, de façon beaucoup plus globale et qu'on arrive à changer un peu les logiciels. Parce que c'est pas normal de se battre, de prendre les additifs dangereux pour la santé un par un, par exemple. À un moment donné, il faut qu'il y ait des décisions politiques qui se prennent différemment.
Il y en a 300 et quelques, donc ça fait beaucoup quand même.
Oui, c'est ça. Mais bon, ils sont pas tous dangereux pour la santé, mais quand même. Mais à force de chaque bataille, si vous voulez, perdue séparément. Parce que ce qui est sûr, c'est que du coup notre le rôle de contre-pouvoir citoyen tel que Foodwatch et d'autres, si vous voulez, est complètement perçu et reconnu hein, par les industries et par les politiques. Le rôle de nos contre-pouvoirs citoyens est en fait reconnu par les industriels et les politiques. Ouais. Et vous me posiez la question tout à l'heure. Moi, je n'ai jamais reçu de menaces hein, des industriels parce que tout ce qu'on publie, c'est factuel. C'est sourcé, c'est documenté, et c'est très légitime de demander de protéger la santé des gens tout simplement. Donc en aucun cas on est menacé parce qu'ils savent qu'on est dans le juste. Et pour ces raisons-là, je pense que les succès que l'on peut voir comme des batailles séparées, mis bout à bout, font que notre voix à tous ensemble. Peut compter et compte de plus en plus.
Bien sûr. Karine, je pose toujours la même question à mes invités, c'est quelle est votre vision de la France aujourd'hui ? C'est une question large, volontairement.
Déjà, moi, je vois la France comme participant de l'Europe, ouais. parce que l'Europe qui s'est d'abord construite sur la volonté de ne plus faire la guerre, de créer plus de liens sociaux et de réduire les inégalités, cette idée de l'Europe, elle me plaît. Je crois aussi que dans les rapports de force mondiaux, parce qu'il ne faut pas être naïf, les rapports de force existent, on aura de chances de faire valoir une certaine vision de la société que si on est à l'échelle européenne. C'est pour ça qu'il faut urgemment qu'enfin on passe d'une Europe économique à une vraie Europe démocratique, politique et solidaire. Ouais. C'est pas gagné, j'ai très peur d'une implosion et de beaucoup de replis sur soi, mais je crois que c'est pas perdu non plus, au contraire, et il faut qu'on défende tout cela. Mm-hmm. Et puis la France c'est le pays des libertés quoi et des lumières et il faut qu'on le retrouve ça. Mm-hmm. Il faut qu'on le retrouve absolument. C'est pour ça que je parle d'engagement, de mobilisation, de faire avancer les choses ensemble et c'est pas juste un enthousiasme béat. Mon optimisme et mon engagement, c'est que je crois qu'on en est capable. Je crois qu'on en a les ressources. Et je crois que quand on est inspiré et qu'on a confiance ou qu'on se fait confiance, on peut renverser des montagnes pour plus de démocratie, plus de solidarité. Et c'est possible, bien sûr. Et j'ai envie que ce soit ça, en tout cas, la France. Et quand je vois trop de repli sur soi, car je sais que c'est ça aussi. Je me dis qu'il faut vraiment qu'on inspire, au contraire, avec des valeurs d'ouverture et des combats qu'on peut mener tous ensemble, main dans la main.
J'ai oublié de vous poser une question avant. Ma question, c'est deux, trois réflexes que vous avez adoptés vous-même dans votre vie personnelle pour vous alimenter. Je sais que c'est un peu bêta comme question, vous n'en parlez pas si vous n'avez pas envie d'en parler, mais voilà, des trucs que vous vous interdisez absolument. Est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio? Parce qu'il y a tout un débat sur le bio actuellement, parce que c'est vrai que si on industrialise le bio, ça va être compliqué de rester sur le bio. Voilà, est-ce que vous auriez deux, trois conseils à donner aux gens qui nous écoutent, tout simplement? Vous êtes quand même une référence dans le secteur.
Moi, je me bats surtout pour que l'offre change au niveau des responsables, des fabricants et des politiques. Mais moi, à l'échelle individuelle, si vous voulez, compte tenu de, je suis assez informée. Ouais. Donc, j'essaie d'éviter au maximum les produits trop transformés parce qu'on sait aujourd'hui que c'est pas ça qui apporte ce dont le corps a besoin. Ouais. Et on voit bien aujourd'hui que l'alimentation, c'est ce qui est la force de notre système immunitaire et qui fait qu'on peut être résilient aussi. Et c'est absolument essentiel. Donc pas trop de produits transformés. Après, c'est vrai que dans mes choix, je vais plutôt vers des circuits courts aujourd'hui.
Ouais.
Parce que j'ai envie que les producteurs soient bien rémunérés. Parce que j'ai envie qu'il y ait aussi une agriculture effectivement plus respectueuse de l'environnement. Et puis des droits de chacun. C'est vrai que je vais vers du bio autant que je peux. Pourquoi? Non pas là encore que le bio ce soit parfait. Par exemple, les additifs à base de nitrite et de nitrate sont toujours autorisés dans le bio. Donc il faudra continuer à améliorer le bio. Néanmoins, dans le bio, il n'y a pas 338 additifs autorisés, il y en a 42. Et il n'y a pas les pesticides de synthèse, pour ne donner que des exemples qu'il y a dans d'autres modes de production.
C'est ça.
Donc le facteur risque pour la santé, quand on diminue, si vous voulez, le nombre de substances potentiellement dangereuses auxquelles on s'expose, on diminue le risque. Voilà. Mais je rêve, si vous voulez, de produits bio ou pas bio, c'est pas le sujet, mais en tout cas, je sais pas comment on les appelle, mais en tout cas, de produits qui effectivement n'ont pas de substances potentiellement dangereuses pour la santé. Et surtout qu'ils soient majoritairement sur le marché et accessibles pour tous. Mmh. C'est ça quand même le sujet pour demain aussi. Nous, on se bat pour une alimentation saine pour tous. Aujourd'hui, il y a aussi des marqueurs sociaux sur l'accès à certains types d'alimentation par rapport à d'autres. Ça c'est un problème. Mmh. Voilà. Après, j'ai réduit énormément la consommation de viande, mais je ne suis pas végétarienne. Mmh. Mais je garde, c'est vrai, une consommation du coup très très ciblée, et avec des produits de qualité et plutôt de producteurs locaux. Parce que j'ai trop travaillé sur la question de la déforestation pour ne pas savoir ce que la cultivation du soja qui nourrit notre bétail et des animaux, par exemple au Brésil, fait à la déforestation et à l'Amazonie, et que là-bas ils utilisent énormément d'OGM. Et que si j'achète forcément du bétail qui vient de là-bas, il ne sera pas cultivé avec les mêmes normes que celui qui est chez nous.
Pour finir notre échange, j'ai coutume de poser comme question un coup de cœur et un coup de gueule. Vous n'êtes bien entendu pas obligé de répondre, en sachant que vous pouvez n'en avoir aucun ou en avoir plusieurs, bien entendu, sans problème.
Oui, écoutez, c'est j'ai un coup de cœur très récent en fait. J'ai lu la tribune là le 30 avril de Claude Alfandéry dans Libération, qui est un vétéran de la résistance, et qui a fait une tribune pour en fait inviter les gens à se saisir de ce moment de crise, de remise en question, pour refonder le Conseil national de la résistance. Et un programme qui pourrait être l'équivalent du programme que le Conseil national de la résistance avait élaboré, qui est le programme des jours heureux. Mmh. Et je suis avec attention du coup ce qui se passe depuis, parce que je vois qu'il y a des initiatives effectivement pour se regrouper avec ceux qui le souhaitent et effectivement fonder quelque chose qui ressemblerait à ça. Et je trouve que c'est dans la même veine que le Indignez-vous de Stéphane Hessel. C'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin, de se réveiller. Au sens, c'est pas une critique si vous voulez, mais c'est au sens de dire bon bah aujourd'hui effectivement, si on veut que les choses changent, il faut qu'on ne subisse plus. Il faut qu'on parte du principe que tout ça n'est pas une fatalité et que on peut collectivement faire changer les choses. Et là, c'est un bon moment pour le faire et pour s'en saisir. Et on a aussi besoin de voix inspirantes. Et moi, j'avoue que ces vétérans de la résistance qui ont su se nourrir de situations tellement dramatiques de la Seconde Guerre mondiale, mais pour garder un enthousiasme, un optimisme et une détermination de dire, on va faire mieux et on va en profiter, non pas pour être négatif, mais au contraire pour construire une société meilleure. Je trouve ça très inspirant. Et j'ai envie qu'on fasse pareil, quoi.
C'est inspirant tout autant que c'est inquiétant si des hommes comme eux qui ont vécu le pire se réveillent maintenant. Enfin, nous, et tentent de nous réveiller, c'est qu'il y a quand même des similitudes qui peuvent être un peu glaçantes.
D'ailleurs, il fait un parallèle entre en gros l'ennemi aujourd'hui, ce serait plus évidemment les nazis, mais évidemment, enfin quoi que, j'espère que ça reviendra pas, mais l'ennemi ce serait le Covid-19. Moi, je pense que la résistance qu'il faut qu'on ait, c'est par rapport à un modèle de société où l'économie a trop primé et où les intérêts
économiques. Nos propres ennemis, en fait, c'est un peu ça le problème.
Non, mais bien sûr. Ouais. Non, mais bien sûr. C'est-à-dire que ça fait des années que beaucoup nous disent il n'y a pas d'alternative. L'État, on va lui réduire ses moyens parce qu'on est beaucoup trop endetté. Et en parallèle, on donne de plus en plus de poids à certains acteurs économiques et aux multinationales et aux lobbies. Et là, on voit toutes les limites de ce système. Donc, la résistance, pour moi, elle n'est pas face au Covid-19 qu'il faut que l'on combatte, bien sûr. Et j'ai une pensée pour toutes les personnes directement affectées, évidemment. Mais la résistance qu'il faut qu'on mette en place aujourd'hui et le programme qu'il faut qu'on mette en place aujourd'hui, qui pourrait s'appeler tout à fait aussi les jours heureux, c'est bien pour revoir les choix politiques et notre organisation de vivre ensemble.
Vous voulez parler d'un coup de gueule en particulier ou
Je pense que j'en ai parlé pendant tout le long, mais quand même, je ne suis pas surprise de certaines pratiques de certains lobbies qui défendent certains intérêts privés, à commencer par ceux des pesticides et pas seulement. Mais quand même, on a beau connaître la stratégie du choc, donc décrite par Naomi Klein, et le fait qu'on sait que beaucoup vont chercher à profiter de ces moments de crise pour défendre plus que jamais leurs intérêts. Voilà, là, on a mis la main sur des lettres de Bayer aux institutions européennes et d'autres lobbies agricoles qui demandent ni plus ni moins de geler toute mesure nouvelle qui renforcerait la protection des gens et de l'environnement. J'ai beau le savoir, ça continue à me scandaliser. Mmh. Et voilà. Et vraiment, face à cette mauvaise foi et face à ces pratiques décomplexées, soyons forts, quoi. Ne les laissons pas faire parce que vraiment, c'est inacceptable.
Je suis d'accord. Pour finir, je propose qu'on lance un appel à, puisque Foodwatch est une ONG, on lance un appel pour dire que les personnes qui ont envie de vous donner de l'argent, qu'ils se rendent sur le site de Foodwatch pour vous accompagner dans votre digne combat.
Merci, oui, pour participer, oui, pour rejoindre le mouvement et pour nous permettre de rester 100% indépendants. De toute façon, ça fait partie de notre ADN.
Mais je vous le souhaite.
Voilà. Plus on est nombreux, plus notre voix compte.
Merci beaucoup, Karine, pour notre échange. C'était passionnant. Je vous souhaite une très belle route, une bonne continuation et, je l'espère, un bon déconfinement.
Merci à vous et à bientôt.
À bientôt, Karine.
Au revoir.
Au revoir.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.